Un podcast France Culture.
Et puis un jour, les lofters ont voulu partir. Il y avait une soirée où ils ont demandé de l'alcool, il y avait une partie de la production qui a dit non, et ils ont dit, on s'en va. Ils ont voulu escalader les murs. Ils ont menacé de partir. On a failli être dans un moment difficile. Ils avaient du caractère. Ils l'auraient fait.
Quatrième épisode, toute sortie et définitive.
Quand est arrivé Love Story, ça correspondait à un moment où, avec des copains, des radios libres et des télévisions libres...
L'activiste Charlie Denoz.
On a monté une télévision libre qui s'appelait Zaléa Télévision, dont le slogan était « Une autre télévision est possible ». Donc juste à ce moment-là, arrive Love Story. Première émission pour ouvrir la voie à ce que l'on appelait déjà et que l'on appelle toujours la télépoubelle. Et l'idée est très vite sortie d'organiser un jeu, puisque Love Story, quelque part, était un jeu. Donc nous, on s'est dit, on va organiser un contre-jeu qui va consister à aller libérer les otages de Love Story.
On avait des gens qui voulaient pénétrer dans le love.
Kenza Brega.
Qui venaient nous balancer des choses au-delà du mur. Ils voulaient nous balancer des messages.
Et il y avait aussi à libérer des poules, parce qu'ils avaient reconstruit un poulailler. Comment aller les libérer? Déjà aller les approcher près du lord, leur envoyer des messages, puisqu'on ne pouvait pas rentrer, leur envoyer des messages avec... Il n'y avait pas de drone à l'époque, mais on avait contacté un club d'aéromodélisme, et l'idée était de faire survoler avec des petits avions le loft et de jeter dedans des messages, etc.
Là, c'était assez intéressant, parce que les lofters ont,
David Dufresne,
un réflexe absolument pas politique. C'est-à-dire qu'ils ont demandé de la sécurité, ils n'ont pas compris que des gens voulaient les libérer.
Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, on a eu peur, comme si on avait été coupé pendant des milliers d'années reclus.
Julie, merci.
On entendait beaucoup de bruit à l'extérieur quand même. Ça nous inquiétait. On se demandait ce qui se passait et on se demandait pourquoi il y avait autant de bruit à l'extérieur.
Et là, à notre grande surprise, on s'est retrouvé à peu près 600 personnes. Alors, on a fait une banderole qui faisait de, sans exagérer, 12 mètres de long, avec écrit en gros « Libérer ». Un petit, au moins, les poules.
Il y avait quand même des remparts, mais bon, ils voulaient passer au-dessus, libérer les lofters.
Angela Laurenti.
Bref, alors, nous, c'était un samedi, et on a dû appeler la police, évidemment, c'était dangereux.
À Saint-Denis, oui.
Charlie Denoz.
Quand nous, dans toute cette petite foule-là, est arrivée dans la rue, je crois, c'est la rue Proudhon, justement, qui était derrière les studios, là. Et donc là, on était dans cette rue où on pensait au plus près du loft, il restait à pouvoir passer le mur et donc le portail après. Il n'y avait pas un flic à la vue, quoi. On était vraiment tranquille, presque à la campagne.
Donc on a appelé la police, le commissariat n'était pas loin du loft. Et la police, elle dit, non, il n'y a rien dans vos trucs, qu'est-ce que vous racontez? On a dit, oui, attendez, vous entendez pas, ça crie. Et donc, il dit, mais pas du tout, on est en train de regarder le programme, tout va bien, il n'y a rien. Et on dit, non, mais vous regardez ce qui s'est passé hier. Hier, c'était le vendredi. Là, aujourd'hui, c'est samedi, c'est en direct, ça se passe là, ils sont là. Donc, quand même, les policiers, ils étaient en train de regarder. Mais tout le monde regardait. Et donc, ils nous ont dit, non, il ne se passe rien, ou à la piscine, ils sont tous en train de bronzer. Et on a dit, non, ils ne sont pas en train de bronzer, on a dû les ramener à l'intérieur parce que les gens veulent rentrer dans leur jardin. Il faut que vous veniez. Ah bon, on arrive.
Et tout d'un coup, on a commencé à entendre des sirènes typiques de flics et d'autres. Et tout d'un coup, on a vu dans la rue, arriver par les deux côtés de la rue, des voitures de flics, comme on voit en ville, avec des sirènes qui hurlaient, etc. Donc tout ça, ça a monté un peu la tension, bien sûr, de tout le monde dans la rue, qui s'est mis à crier, etc. Enfin, ça a monté d'un cran la tension, quoi. Devait être début d'après-midi, je dirais, 3-4 heures d'après-midi, quelque chose comme ça.
Là, il se trouve que je joue un rôle, d'ailleurs, je crois que je le raconte dans la chronique, où
David Dufresne,
pendant qu'ils manifestent, ces gens-là, pour libérer les poules, en fait, ils m'appellent, et moi, je leur dis ce qui se passe sur le direct d'Internet, à l'écran. Comme ça, ils peuvent voir s'il y a des forces de sécurité qui s'approchent, s'il y a des vigiles qui s'approchent, comment les lofters réagissent, etc. Et donc là, il y a un jeu de... On va essayer de faire péter le truc de l'intérieur. Ça n'a pas marché, mais c'est quand même resté. Évidemment, ça voulait dire beaucoup plus que libérer les poules. Et donc, c'était une façon de détricoter tout le système hertzien et la complicité à l'époque, c'était le CSA déjà, je crois. Ouais. Aujourd'hui, n'importe qui a sa chaîne YouTube.
Notre idée aujourd'hui, c'est de montrer que Love Story, pour nous, ce n'est pas de la télévision.
Enfin voilà, donc il y avait des tas de choses comme ça. Il y avait des gens qui essayaient de pénétrer dans le loft. Il y avait des poubelles qui étaient déversées devant M6. En tout cas, dans la gestion du loft, on est resté assez pur, en fin de compte. On a lancé le programme et on n'a pas bouleversé éditorialement les choses.
Je vous rappelle que vous ne votez plus pour éliminer un candidat, mais pour que l'un des deux reste dans la maison. Alors, qui restera dans le loft ?
Alors, les éliminations, c'était jamais très agréable. Donc, les garçons devaient nommer une fille une semaine et vice-versa la semaine suivante. Et c'était jamais une partie de plaisir. Mais bon, c'était le jeu, hein. On en avait conscience, c'était le jeu et on s'y pliait.
0002, 3,68 par appel. Également le mobile, le téléphone portable. Vous envoyez un petit message, tapez RES plus le numéro de téléphone, 1 franc par appel.
Je sais qu'à un moment donné, je suis nominée.
Julie, merci.
J'ai pas réellement envie de sortir du loft. Pas uniquement de quitter Christophe, mais quitter cette expérience qui est douce. On est dans un cocon, c'est très agréable, entre ce monde chaud, doux, moelleux, et la réalité de la vie en dehors du loft, on ne comprend pas grand-chose. Et on comprend pas surtout ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'évolution et l'engouement qu'a suscité cette émission, on la prend en pleine face.
Quand il y avait un lofteur qui partait, l'équipe de production pleurait. Toute l'équipe pleurait. Chose qui est affolante. Jamais par la suite, j'ai jamais pleuré dans aucun de mes programmes parce qu'un candidat partait. C'est absurde. Là, on pleurait tous ensemble. Mais ils ne savaient pas qu'à l'extérieur, c'est-à-dire toute la France entière, avait suivi ces programmes. C'était un gros, gros, gros succès et qu'ils étaient très, très connus. Sur un Paris Match, la couverture, c'était Aziz et Delphine à Cannes. Et un encadré avec Caroline de Monaco. Donc là, au début, ils se sont dit c'est un faux, voilà. Sur Télé 7 jours, il y avait Stevie avec un couverture Génération Stevie. Et puis, il y avait des tas de magazines où ils faisaient la couverture de tout. Et quand on leur a dit que c'était vrai, Christophe a mal réagi. Il a dit, mais attends, moi je voulais pas ça, je voulais pas être si connu que ça, mais c'est quoi ça? Mais je veux absolument pas faire une couverture, moi je veux être tranquille. Hein.
Qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story, Christophe
et Loana.
Ça vous étonne?
C'est le meilleur couple, c'est ceux qui devaient être élus, c'est les plus simples, c'est les vrais.
Alors, dernière émission du Loft, donc effectivement Loana et Christophe, sacré gagnant.
C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'est plus beau que mes rêves et je vous embrasse vraiment tous très très fort.
Un moment peut-être, évidemment, qui dépasse tout, c'est cette finale où ils sortent du loft.
Oui, Alexis de Gemini.
Ils sont en voiture, suivis par des motards et il y a une nuée de dizaines de milliers de personnes. On a fini l'émission en direct à l'Avenue, qui était une boîte de nuit sur les Champs-Élysées. Avec des célébrités. C'était fascinant et très heureux pour moi de voir cette histoire se finir aussi bien à ce moment-là.
Et évidemment, quand ils sont sortis, ça a été la folie. Les Champs-Élysées, c'était la folie. Je sais qu'à un moment donné, j'avais envie de me voir, il me dit « Angela, sors-moi d'ici, j'ai envie de partir d'ici ». Il était 3h du matin, je vais juste boire une bière dans un endroit, personne ne me connaît, je suis tranquille, tout seul. Et je dis « Ben, c'est impossible ». Il n'existe pas cet endroit en France pour l'instant. Tout le monde te connaît.
Mais c'est au moment où on est sorti où on s'est dit « Ah oui, quand même, il y a quelque chose, il y a un phénomène. »
Kenza Brega.
En fait, on sort, on n'est plus les mêmes. On est des stars, quoi. On est des petites stars de la télévision, quoi. On crée même des émeutes sur les Champs-Élysées, vous vous rendez compte? Qui a fait ça, mis à part la Coupe du Monde, mis à part les joueurs de foot? Les gens pleuraient quand ils nous voyaient. J'ai des mamans qui ont appelé leur fille Kenza parce qu'ils m'adoraient. J'ai reçu je sais pas combien de courriers pour me dire qu'on avait envie de m'épouser et qu'on voudrait que je porte l'enfant du monsieur qui m'avait envoyé le courrier, quoi. Enfin, vous voyez, ça allait jusque-là. Ça a été à la fois sensationnel et à la fois ça nous a fait très peur aussi. On était des stars, mais on était des stars pas de la chanson, ni de la musique. En fait, on n'avait aucun talent. Et je crois que c'est ça qui a déplu aussi à une grande majorité des gens des médias. C'est-à-dire que on ne comprenait pas comment ces gamins qui n'avaient rien à proposer étaient devenus aussi stars que stars, quoi.
Je me rappelle que je sors du loft. J'habitais dans un quartier extrêmement populaire indien à Paris.
Alexis à la Roche-Joubert.
Le 10e arrondissement. Et je vais dîner dans un restaurant indien avec mon conjoint. Et là, j'entends à la table d'à côté parler de Luana. Je me dis, à la table d'à côté, il parle de Luana. Et puis à la table d'à côté après. Et je me dis, mais en fin de compte, c'est vraiment un phénomène. Je pense que j'en ai pris conscience en sortant moi-même du loft. On bouleverse les codes. On est assis sur un succès phénoménal. C'est une fusée quand même. Ça nous propulse dans une stratosphère incroyable. Ou d'une certaine façon, assez humblement, on ne s'en rend pas compte.
Benjamin Castaldi, animateur qu'il était à l'époque, est devenu l'animateur star, grâce à cette émission aussi. Endemol est devenu la boîte de production tendance. Donc vous voyez, en fait, tout le monde a acquis une notoriété qu'il n'attendait pas. M6 est devenue la chaîne qu'il faut regarder, parce que grâce à cette émission, la petite chaîne est devenue la grande chaîne du moment. Donc vous voyez, en fait, tout le monde a finalement picoré, s'est un peu gargarisé avec cette notoriété qui finalement est retombée très très vite comme un soufflet pour nous les candidats, alors qu'elle a continué et qu'elle a mené justement les autres, comme la production, la chaîne, à des sommets incomparables. Être célèbre, c'est pas un métier. Et c'est à ce moment-là où la vraie vie commence. C'est à ce moment-là où les vraies interrogations concrète commence sur ce qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on va aller avec ça, qu'est-ce qu'on va faire de cette notoriété. Je n'étais plus Kenza Brega, j'étais Kenza du Loft. Donc ma mère aussi a beaucoup souffert. Elle a, suite à cette émission, elle a été agressée, elle a dû fermer son commerce à l'époque. Elle avait un salon d'esthétique qu'elle a dû fermer parce que les gens venaient l'agresser, lui ont cassé du matériel. Alors il y a aussi quelque chose de plus que moi j'ai subi par rapport aux autres candidats, c'est aussi la charge culturelle que moi, en tant que jeune femme d'origine orientale, j'ai dû aussi subir le fait qu'une fille comme moi, qui a ces origines-là, ne doit pas participer à ce type d'émission, parce que chez nous, c'est la honte.
On a vécu l'expérience à deux, avec Christophe.
Julie, merci.
On se soutenait l'un l'autre, et on est réellement l'âme sœur l'un de l'autre, encore aujourd'hui. Alors, on a fêté nos 20 ans de mariage cette année, et on est fiers de ce qu'on a construit, d'avoir réussi à se préserver, à s'éloigner de cette frénésie et d'avoir construit notre famille, nos enfants. Surtout que, au démarrage, l'aventure, c'était quoi? C'était Loft Story, c'était Love Story, c'était rencontrer l'amour. La chance a fait qu'on s'est rencontrés et qu'on est encore ensemble et qu'on vit une histoire superbe. On en a conscience, on en est fiers, mais on garde l'humilité. Je n'aime pas trop mettre en avant ce genre de choses. Parce que c'est fragile. La vie est fragile. Mais dans tous les cas, dans notre esprit, l'idée, c'était de revenir à la réalité. Tout ça, c'est pas la réalité. C'est, voilà, des bulles de bonheur, des bulles de d'expérience, mais qui ne correspondent pas à notre quotidien.
On a vraiment ce naturel qui fait que je pense que c'est ça qui a plu aussi au public. C'est qu'on avait ce naturel et qu'on n'était pas faux. On n'était pas préfabriqué, en fait. On ne connaissait pas les codes de cette émission. On ne connaissait pas les codes de la télé-réalité. Donc tout ce qu'on faisait était totalement naturel. Si on avait un coup de cœur, on avait un vrai coup de cœur. Si on avait un coup de gueule, c'était un coup de gueule spontané.
Effectivement, effectivement. Les lofters, c'était les premières influenceurs. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il est tellement intéressant qu'il doit avoir cette fenêtre ouverte pour raconter aux autres comme il est intéressant. La vraie télé-réalité aujourd'hui, il faut la trouver sur tous les réels que les gens postent, où ils parlent de leur vie. Là, je vais trouver devant la vie, enfin devant des gens, et en faire un programme. Je pense que c'était le plus grand show qu'on peut faire, c'est sur la vie réelle.
Ils l'ont vécu, 26 avril 2001, le Loft débarque en France. Un podcast produit par Élodie Maillot, réalisé par Charlotte Roux. Avec Kenza Brega, David Dufresne, Louis-Alexis de Gemini, Alexis à la Roche-Joubert, Angela Lorente, Julie Merci et Charlie Denos. Extrait de Loft Story, produit par M6, extrait de Loft Paradoxe de Jean-Jacques Benex et Archive INA. Retrouvez toutes les références des archives sonores utilisées sur la page internet de l'émission. Conseiller et chargé de programme Camille Renard, Thomas Biassi et Elodie Piel. Mixage Pierre-Henri. Un podcast à retrouver sur l'application et le site de Radio France.